agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Parmi l'entrelac des émotions qui traversent notre France et que viennent d'intensifier au plus profond les événements dramatiques de ces derniers jours, un fil de longue durée se discerne. Il s'agit de la question de nos comportements collectifs et individuels en face de la pression des migrations qui amènent à nos portes la foule de ceux et de celles qui aspirent à rejoindre notre espace national, que ce soit pour un temps ou pour toujours. Dans les réactions de nos compatriotes devant ces malheurs multiformes qui frappent à nos portes, se mêlent intimement des préoccupations économiques et des soucis financiers, des inquiétudes sociales et des passions politiques, des crispations identitaires et des générosités morales. J'ai souhaité ce matin que nous nous mettions en quête d'un précédent où se retrouvent conjugués ces ressorts divers, quand bien même, ainsi qu'il advient toujours, chaque moment historique se définit aussi par ses différences, par son inaltérable unicité. Nous allons évoquer, pour comparaison, l'arrivée en masse en 1939, à hauteur d'un demi-million d'hommes, de femmes et d'enfants, des républicains espagnols, d'un bord à l'autre des Pyrénées, quand ils se sont trouvés défaits, à l'issue d'une effroyable guerre civile, par les forces nationalistes de Franco et des siens. Mon invité, Denis Péchanski, directeur de recherche au CNRS, s'est attaché naguère à retracer leur histoire, qui est aussi la nôtre.
De Léo Ferré, Flamenco de Paris.
Tu ne m'as pas dit que les guitares de l'exil sonnaient parfois comme un clairon. Toi, mon ami l'Espagnol, de la rue de Madrid, rencontrer l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Je ne t'ai pas dit que les guitares de Paris pouvaient apprendre ta chanson. Toi, mon ami l'Espagnol, de la rue de Madrid, rencontrer l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Et puis tu es parti dans les rues de Paris. Et tu ne m'as rien dit. Paciencia.
Denis Péchanski, bonjour.
Bonjour.
C'était Yves Montand qui interprétait une chanson de Léo Ferré, le flamenco de Paris, avec Henri Crolla à la guitare. Une chanson qui remonte à 1952. Il me semble que la date n'est pas indifférente quant à l'histoire de la mémoire des événements que nous allons évoquer ce matin.
Oui, parce qu'au-delà même du flamenco, qui est la musique de la tristesse et de la mélancolie, on a ce mot décisif, la paciencia. On n'est plus au sortir de la guerre avec l'espoir de la reconquista, de la reconquête, du renversement de Franco après la défaite d'Hitler et de Mussolini. On est dans les années 50, dans la guerre froide, dans Franco qui s'est installé. On est du côté, pour ceux qui continuent à se battre, de la résistance, avec l'espoir un jour du renversement du régime franquiste.
Donc cette histoire d'exil, comme souvent, s'organise sur plusieurs temporalités différentes. Il y a eu l'espoir immédiat d'un retour et puis la constatation que l'installation en France, pour beaucoup, ou ailleurs, nous le verrons, était inévitable, en somme, du fait de l'évolution des choses.
Et ça a des conséquences aussi dans le rapport à la France de ces Espagnols, qui, bon, ils étaient au nombre de 110 000 environ, qui étaient restés en France, finalement, depuis leur passage en février 1939.
À partir d'un demi-million, à partir d'un demi-million.
Tout à fait. Et donc, on avait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près 110 000 Espagnols, très marqués par cette histoire, et qui étaient restés en Espagne, en quelque sorte. Et là, dans les années 50, c'est fini. Donc, ils ont certes un pied en Espagne, mais aussi un pied en France. Et le processus d'intégration, qui était freiné par l'espoir du retour, va s'accélérer dans ce contexte.
Il faut rappeler ce qu'a été, quelques mots, épouvantable guerre d'Espagne, qui était d'une brutalité, d'une violence que nous rappelle bien sûr le Guernica de Picasso, mais beaucoup d'autres témoignages, beaucoup d'autres récits, beaucoup d'autres photographies.
Oui, guerre d'Espagne et des suites immédiates. Il y a un livre très important qui vient d'être publié par le plus grand historien de la guerre d'Espagne, l'Espagne franquiste, qui s'appelle L'Holocauste espagnol, qui n'a pas été encore traduit en France, Paul Preston. Et Paul Preston, à travers ce titre qui peut être discuté évidemment, montre l'ampleur de la mort de masse qui était à l'ordre du jour pendant la guerre d'Espagne bien sûr, mais ensuite dans les premières années du franquisme. Mort de masse. On peut imaginer le sort de ceux qui ont passé la frontière au moment de la défaite de la République espagnole, et dont beaucoup sont revenus. Et dans quelles conditions ils vont être accueillis, ostracisés, persécutés. Non, là, il y a toute une histoire qui est encore à écrire.
Cette guerre civile a duré près de 4 ans et la défaite se dessine. Le pronunciamento est de juillet 1936. La défaite s'affirme au tout début de 1939, un moment où les derniers combats du côté de la Catalogne sont perdus par les Républicains, qui sont les enfants de la légitimité, il faut le rappeler.
Exactement, c'est la légitimité qui est abattue, et qui est abattue par un pronunciamento franco et d'une partie de l'armée espagnole, de généraux espagnols soutenus par Hitler et Mussolini. Et on a une chute en deux temps, en fait, très proche, la chute du front catalan fin janvier 1939, et début février, et la chute du front du centre, Madrid, vers Valence, en mars.
Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que c'est le premier acte, le prélude de la Seconde Guerre mondiale, et cela a été ressenti un peu partout. De la même façon, il y a une multitude de témoignages, j'en ai choisi un, une réaction d'un grand intellectuel qui est Romain Rolland, en 1937, et il réagit à l'événement de la façon suivante.
Aide à l'Espagne, elle combat pour nous, France. Pour nous, démocratie, car l'une et l'autre sont en danger. L'ennemi cherche à nous encercler. Le laisserons-nous venir aux Pyrénées? Le peuple d'Espagne est notre front du Midi contre l'agresseur. Qui donc oserait nous interdire de défendre nos défenseurs? Le combat d'Espagne est notre combat. Défendons-nous. Défendons le peuple d'Espagne. Qu'il serait inique et monstrueux de bloquer le gouvernement légal d'Espagne, élu par la majorité du peuple, reconnu par tous les autres gouvernements et membre de la Société des Nations, parce que des généraux traîtres à leur peuple ont lancé contre lui les mercenaires de leurs légions étrangères et les Africains. Les gouvernements qui soutiennent les insurgés ou qui refusent au gouvernement légal d'Espagne tous les moyens de se défendre, ne comprennent-ils pas que la hache qu'ils laissent lever sur le peuple d'Espagne retombera demain sur leur tête?
on éprouve que Romain Rolland pense très directement à l'Angleterre, à ce qu'on a appelé la gouvernante anglaise à l'époque, dans la roue de laquelle la diplomatie française avait accepté de s'inscrire.
Exactement, c'est le rapport de force international. Blum était évidemment de cœur, et pas simplement de cœur, avec la République espagnole, et a laissé de façon semi-officielle ou officieuse Pierre Cotte et autres ministres financer la République espagnole et armer la République espagnole, mais de façon
Pierre Cotte qui était le ministre de l'air.
Mais il ne pouvait pas le faire officiellement, parce qu'officiellement, c'est la non-intervention. Et s'il a décidé la non-intervention, c'est sous la pression à l'extérieur de l'Angleterre, qui se sentait beaucoup plus proche de Franco que de la République, avec Chamberlain, c'est pas Churchill.
C'est l'époque de l'appeasement, c'est-à-dire où la Grande-Bretagne cherchait en fait les moyens d'un accord avec les dictatures.
Il va le faire d'ailleurs après, c'est symbolisé par Munich ensuite, mais c'est terriblement prémonitoire ce discours de Romain Rolland, parce que c'est effectivement la Deuxième Guerre mondiale commence en Espagne.
Alors portons-nous vers ces sombres moments où les républicains, qui sont encore une fois les enfants de la République de 1931, la République légitime, comment ils se trouvent refoulés et contraints dans des conditions que nous allons voir dramatiques, de se porter de l'autre côté des Pyrénées en France.
C'est encore en débat, mais il y a à minima une erreur majeure des gouvernants français et des militaires français qui s'imaginaient une capitulation des troupes républicaines de l'autre côté des Pyrénées. Et donc l'accueil de 10 000, 20 000, 30 000 personnes qu'on pouvait gérer facilement. Franco, lui, était très intéressé à faire fuir ces centaines de milliers de personnes et donc à laisser l'ouverture vers la France, à la fois pour se débarrasser au moins un temps avant de les contrôler au retour, pour ceux qui revenaient en Espagne, de se débarrasser de personnalités, de personnes potentiellement dangereuses, mais en plus, qui ainsi pouvaient faire pression sur la France. Parce que c'était une terrible pression, que ces 500 000 personnes, évidemment, du côté français, dans une France qui était confrontée à la montée des périls. Donc là, il y a un calcul des deux côtés, et du côté français, Georges Bonnet, qui était ministre des Affaires étrangères, qui était auprès de Daladier, très anticommuniste, très réticent vis-à-vis de ce qu'il appelait sans doute les rouges espagnols, là va faire une erreur stratégique majeure. Pourtant, il a été alerté. Il a été alerté par les services de Madrid, par un attaché militaire qui l'a prévenu, et non. Et donc, ils vont se retrouver à gérer une situation d'exception. 475 000 personnes vont passer la frontière, le col du Pertus, et qui vont se retrouver, alors là, dans des conditions terribles, parce que d'abord accueillis sur les hautes vallées pyrénéennes, là, il y a une sorte de dispatching. Pour l'essentiel, les femmes et les enfants sont transférés dans des centres d'accueil vers l'ouest ou centre-ouest de la France. Ce sont des vrais centres d'accueil, c'est pas des camps d'internement. Et les autres, les hommes pour l'essentiel, mais il y avait aussi encore des femmes, qui vont être envoyées vers, deuxième étape, les plages du Roussillon. Et à même les plages, rien n'était prêt. C'est Argelès, c'est Saint-Cyprien, c'est le Barcarès.
Restons un instant du côté des pouvoirs politiques français. Georges Bonnet a eu la position que vous dites. Le ministre de l'Intérieur, le radical Albert Sarraut, était plus lucide, puisque dès avril 1938, il disait au Conseil des ministres « Le déroulement accéléré des événements d'Espagne peut poser demain au gouvernement français un problème d'une extrême gravité. Un vaste mouvement de peur, la peur, né de la crainte de représailles ou de la menace de la disette, est susceptible de provoquer vers nos frontières l'exode massif de la population catalane. » On dit qu'on n'a pas prévu l'arrivée en masse des Syriens aujourd'hui. C'est un peu le cas chez beaucoup, mais pas chez tous. Je parle de l'Espagne.
Il avait très bien perçu Sarraut comme ministre de l'Intérieur un an plus tôt. Après, on pourrait discuter de son comportement au moment de l'entrée des Espagnols et des volontaires des brigades internationales. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on ne peut pas comprendre, à mon avis, la politique et la stratégie du gouvernement français si on ne le met pas en situation globale, dans le contexte de la société française qui vit une vraie crise d'identité nationale. Et ce rejet de l'autre passe aussi par le rejet quand même massif de la République espagnole.
C'est un péril de toujours et qui met d'ailleurs en assez vif contraste les années 30 par rapport aux années 20, les années 30 qui sont celles de la crise, du chômage galopant, etc. Là aussi, il y a peut-être des échos contemporain. Les années 20 ont été marquées du côté des naturalisations, par exemple, par une véritable générosité. Il est vrai qu'il y avait eu beaucoup de morts et qu'on manquait d'hommes.
On avait besoin d'hommes. Je veux dire, c'est le patronat français qui allait chercher la main-d'œuvre à l'étranger, en particulier chez les Polonais, qui sont venus par centaines de milliers à ce moment-là.
Comme dans les années 1960, le gouvernement de Gaulle pour le développement des Trente Glorieuses.
Tout. Donc on va les chercher. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui se reconstruit, par définition. L'accueil se fait plus facilement que dans une société en crise et une société de clôture, de fermeture.
Il y avait une loi de 1927, donc dans la période antérieure, qui était extrêmement généreuse du côté des naturalisations. On pouvait être naturalisé au bout de 3 ans. Les enfants majeurs de ceux qui étaient naturalisés devenaient automatiquement français, même s'ils étaient nés à l'étranger.
Oui, c'est la grande loi libérale de 1927 qui va être comme un modèle.
Quand survient l'événement que nous évoquons, c'est-à-dire l'arrivée en masse des républicains défaits, l'opinion a beaucoup évolué, comme vous le dites, et est devenue très ambivalente. Je cite à nouveau Sarrault, parce que c'est un homme très très sensible aux évolutions de l'opinion et qui les traduit assez bien à la Chambre des députés en mars 39, c'est-à-dire quelques semaines après l'ouverture décidée par la France de ses frontières aux exilés par force, aux vaincus de la guerre d'Espagne. Dans ce mascaret humain, dans cette immense et pathétique cohue, dont le désordre indescriptible confond les êtres et les choses et défie la tentative d'un choix ou la précaution d'un criblage, c'est important, nous allons y venir, il y a de tout. Il y a des mères et des enfants, il y a des vieillards et des infirmes, il y a des civils et des militaires. Il y a des héros et des fuyards, de braves gens et de la canaille, d'honnêtes gens et des viragos, des innocents et des bandits. Si nous le voulons, toute cette masse affamée et misérable ne passera pas. Elle ne franchira pas la barrière de fer et de feu que nous pouvons lui opposer. Mais, ajoute Sarrault, devant les mitrailleuses, entre elles et l'imploration de ces faces de peur et de détresse, il y a le visage calme, doux et grave de la France de Saint-Vincent de Paul et des droits de l'homme, qui est la même depuis toujours, à travers les âges, comme à travers le monde. Et cette France dit au fusil, écartez-vous, je prends en charge cette misère, il me semble que j'insulterai cette assemblée en demandant s'il y a quelqu'un ici qui aurait préféré que la France laissât parler les mitrailleuses. Fin de citation. Je l'ai fait assez longue parce qu'il me paraît qu'on pourrait presque, de façon semblable, prononcer les mêmes mots dans notre Palais Bourbon d'aujourd'hui, à propos des réfugiés qui nous arrivent.
Sauf qu'on les laissait sur place, les réfugiés syriens. On les abandonnait à la mort. Et la question ne s'est posée qu'à partir du moment où il y a eu un choc dans l'opinion, et lié en particulier à cette image du petit Elan sur une plage grecque. C'est toute l'ambivalence de la politique française de l'époque. C'est à la fois la tradition qu'évoque ce très beau texte de Sarrault, et en même temps, cette peur, cette crainte, dans une situation d'exception, on pouvait faire autrement dans la France des droits de l'homme, dans la France de la Révolution française, qui est tellement portée par ceux qui passent la frontière, tellement dans l'imaginaire d'une bonne partie de ceux qui passent la frontière, on pouvait faire autrement que les accueillir à même le sable dans des tentes bientôt et ensuite dans des baraques qu'on va faire construire aux Espagnols eux-mêmes. On pouvait peut-être les accueillir autrement qu'à l'intérieur de barbelés.
Les chiffres sont évidemment de grande importance. Quand on rapproche ceci de l'ouverture possible aux réfugiés venus de Syrie, on est dans un autre ordre de grandeur.
Ah, il est certain que quand on est en train de se demander si vraiment on peut accueillir 25 à 30 000 personnes en France et qu'on avait 475 000 Espagnols qui avaient passé la frontière du Pertus, il est clair que les leçons de l'histoire n'ont pas vraiment été tirées. On pourrait aussi revenir sur les 140 000 Arméniens qui sont venus en France après, dans les suites du génocide de 1915, qui ont été accueillis en France. Et la question ne s'est jamais posée de savoir si 140 000 c'était trop.
D'où l'ambivalence qui est claire.
Alors, elle est ambivalente. Il y a déjà une chose qu'on doit avoir en tête, c'est que, attention à la mythologie, les quelques 500 000 personnes qui passent la frontière ne sont pas tous des républicains. C'est pas tous des grands soldats de la République qui sont d'un anti-franquisme absolu. Pour beaucoup, ce sont des populations civiles qui, comme dans toute guerre, fuient la guerre. Voilà, ils fuient les combats, ils passent la frontière, et d'ailleurs très massivement, ils vont revenir après. Ils vont repasser la frontière. Ils vont d'ailleurs le repasser d'autant plus facilement quand ils vont voir dans quelles conditions ils sont accueillis les uns et les autres. Bon, en plus, on va les inciter assez fermement à revenir en Espagne. Mais ça explique aussi pourquoi on ne doit pas rester sur ce chiffre de 500 000 en s'imaginant qu'ils vont tous rester en France. Quand on fait le point en mai 1940, il y a 150 000 Espagnols en France qui avaient franchi la frontière en février 39, qui sont toujours en France. Donc ça veut dire que tous les autres, soit sont revenus en Espagne, volontairement ou poussés par les autorités françaises, ou soit ont émigré ailleurs. Mais là, évidemment, on est dans des ordres de grandeur tout à fait différents, de 10, 15, 20 000, vers l'Amérique latine.
Alors du côté du volet le plus sombre, de l'accueil par la France des réfugiés, et pour rappeler la déception d'un certain nombre de ceux-ci, ce témoignage de Julian Casteran et de Francisco Guzman, qui sont deux de ces réfugiés, c'est un extrait de l'émission fameuse de Laurence Bloch, Le Pays d'ici, sur France Culture, le 22 décembre 1988.
Je suis arrivé, je répète encore, le 13 avril au camp de Gurs. Le 13 avril, je me rappelle parce que c'était la veille de l'anniversaire de la proclamation de notre République. C'est pour ça que je me rappelle. Quant à la vie que j'ai menée, le camp de Gurs, des gifles, fripouilles, qu'est-ce que tu as fait en Espagne? Et tu es, s'il te plaît, pas vous, tu, et avec un mépris, franchement, a dégoûté les plus enthousiastes.
En écoutant Julian, qui a été copain de malheur pendant quelques années dans les groupes de travailleurs, ça m'a rappelé les souffrances d'une période qui a été meurtrie pour nous tous et qui a été une période noire pour la France de l'époque. Noire parce que avec nous, on a commis une injustice. 50 ans d'exil, dans quelques mois. 50 ans d'exil. Pourquoi? Pour avoir défendu un gouvernement légal. Un gouvernement que le peuple s'était donné avec une élection libre. Pour défendre et pour avoir vécu pendant 30 et quelques mois une lutte contre les mêmes ennemis que quelques années après allaient attaquer la France, nous avons été soumis à des vexations. Et le camp de Gurs a été construit en avril 39. Mais avant Gurs, il y a eu Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Barcarès, Sept Fonds, Bernet, l'Ariège, Bram.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Voilà, Denis Péchanski, la face très sombre de description de l'accueil. Cet exil sinistre qui s'est incarné dans la personne du grand poète Machado, qui est mort à Collioure, précisément, le 27 février 1939. J'aurais pu placer cette émission sous l'épigraphe qu'a choisi Geneviève Dreyfus-Armand avec Odette Martinez-Mahler. Geneviève Dreyfus-Armand est une spécialiste éminente de ce thème pour un ouvrage d'une anthologie avec des photographies très belles qui viennent paraître aux arènes. Elle cite Machado. « Et quand viendra le jour du dernier voyage, quand partira la nef qui jamais ne revient, vous me verrez à bord et mon maigre bagage, quasiment nu, comme les enfants de la mer. »
Il faut voir les images, parce qu'on a des images du passage de la frontière. C'est terrifiant.
Elles sont nombreuses dans ce livre.
Oui, et puis les images aussi, la situation à laquelle ils se trouvent quand ils sont à Argelès et dans des conditions d'hygiène absolument dramatiques, à même le sable.
On n'avait pas prévu ?
Non, rien n'avait été prévu. Sinon, on aurait eu déjà des baraques. On évoque dans le témoignage, on évoque le camp de Gurs. Après avoir aménagé très rapidement Argelès, Saint-Cyprien, enfin les plages du Roussillon, le Barcarès, on va construire dans l'urgence des camps à l'arrière. Et c'est Gurs en 7 semaines, Gurs. Très, très symboliquement. D'ailleurs, Gurs va être était prévu pour quelques mois. On va l'ouvrir en avril 39. On pensait le fermer à la fin de l'été. On avait construit des grandes baraques, ce qu'on appelle les baraques Adrian, et sur les côtés, des grands panneaux de bois. Parce qu'on ouvrait ça le jour et on fermait la nuit, bien entendu, avec des petites loupiottes, de ces grandes baraques. Sauf qu'arrive l'automne. Et malgré ce qu'on avait prévu, malgré le caractère provisoire de ces camps, Gurs est toujours là. Pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est le froid, c'est la pluie, c'est la boue. C'est la boue. Et donc, on ne peut pas sortir, on reste à l'intérieur. Mais si on lève les panneaux de bois, on a le froid qui rentre. Parce qu'il n'y a pas de vitres. Et si on les ferme, c'est la nuit totale. Le camp de Gurs va évidemment être peu à peu réaménagé. Il ferme le 31 décembre 1945.
Oui, mais entre-temps, il aura des occupants de...
Il aura d'autres fonctions, avec évidemment, en particulier, ça va être le camp de déportation des Juifs.
Vous évoquez les plages, il faut parler de la manière dont on a conduit ces réfugiés à s'installer au bord de la mer. Un lieu où il n'y avait aucun bâtiment d'aucune sorte, ils ont fait des trous dans le sable.
Je vais vous donner une anecdote, mon père était dans les brigades internationales. Il est resté jusqu'au bout, il a passé le Pertus en février 1939... Et comme il était à Albacete, c'était un chauffeur, bon, il est venu avec sa voiture, il me racontait comment il était rentré directement sur la place d'Argelès. Il avait la chance d'avoir sa voiture, parce qu'il pouvait dormir dans sa voiture. Il n'y avait rien, rien. Alors après, on a mis des marabouts, ensuite on a mis des baraques, mais vous rendez compte, on demande aux Espagnols de construire les baraques dans lesquelles ils vont se trouver internés. C'est absurde, dans la France de 1939, c'est-à-dire le 150e anniversaire de la Révolution française. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce moment de crise terrible dans la société française où les références à la Révolution sont plus que maigres et on est plutôt dans un moment de clôture, de xénophobie ambiante, d'antisémitisme développé, parce que c'est la montée des périls, c'est la guerre qui vient. Le seul endroit où on est vraiment célébré la Révolution française, c'est dans le camp de Gurs. On est le 14 juillet 39 et toutes les brigades internationales et les Espagnols vont construire des statues de glaise dont on a conservé des images qui symbolisent la Révolution française. Ça sera une grande cérémonie officielle. Vous vous rendez compte? Dans un camp, ils célèbrent la Révolution française alors même qu'ils sont enfermés dans cette France des droits de l'homme.
Alors que significativement, les pouvoirs publics, pour ce 150e anniversaire de 89 et de la Déclaration des droits, ont choisi de mettre surtout l'accent sur les révolutions transatlantiques, c'est-à-dire sur le rôle des États-Unis d'Amérique, parce qu'il s'agissait de dire de l'autre côté de l'océan, de dire aux Américains qu'on avait besoin d'eux.
Voilà. Il y a d'autres impératifs, on va dire. Alors même que, me semble-t-il, dans ce contexte-là, et ça me fait penser aussi au présent, vous savez, on a besoin de mobiliser autour de ces valeurs-là. Et quand on pense à aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un moment décisif. On a deux grands courants qui s'affrontent. Le courant qui fait référence aux valeurs, qui sont les valeurs porteuses de la France, héritées de la Révolution française, relayées par les Dreyfusards, et ensuite, bien sûr, par la Résistance. Voilà. Ça, c'est ce qui fait la France. Et l'autre côté, un courant qui est un courant d'exclusion, de rejet de l'autre, de dénonciation, de mise à l'écart, d'atomisation de la société française. Et là se joue l'essentiel de l'avenir de la France, aujourd'hui, comme il s'est joué en 1939.
Cette actualité me paraît éclatante et c'est celle-là qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en lumière. Et pour dire qu'en 1939, il ne faut pas peindre les choses exclusivement en noir. J'ai donné des témoignages de blessures reçues par les réfugiés, mais il y a aussi des témoignages nombreux de ceux qui peuvent dire qu'ils ont été aidés, appuyés par toutes sortes d'associations privées et même parfois sur le terrain. Et ce deuxième volet, je vais vous le faire revivre avec un autre propos du même Francisco Guzmán que nous entendions tout à l'heure et qui, à présent, évoque cette solidarité du peuple français. C'est tonique pour aujourd'hui.
Moi, je n'oublierai jamais la marche à pied depuis Cervera jusqu'à Argelès-sur-Mer, encadrée par les gardes mobiles, et au passage de Port-Vendres, des jeunes garçons de mon âge, j'avais 19 ans à l'époque, et des jeunes filles qui se faufilaient entre les gardes mobiles, mais ce n'était pas un ni cinq, c'était par centaines dans toute la colonne, et qui nous donnaient du pain, qui nous donnaient du chocolat, qui nous donnaient des boîtes de sardines. Pour moi aussi, ces souvenirs, jamais, jamais s'effacera. Et je dois dire aussi qu'au bout de quelques jours qu'on était dans les camps, on sentait déjà une solidarité qui venait de la part des syndicats, de la part des démocrates français. Je veux dire que dans la dépêche de mars 1939, il y avait un manifeste qui avait été signé par des personnalités comme le cardinal Verdier, Henri Bergson, Justin Godard, François Mauriac, Jean Perrier, Paul Valéry, André Gide et Jules Romain, entre autres, qui demandaient au gouvernement de finir avec cette injustice qui était en train de faire avec nous dans les camps. Donc, oui, il y a eu des vexations, il y a eu des injustices, mais il y a eu cette lame aussi du peuple français que nous. Nous ne pourrons pas oublier non plus.
La Dépêche, c'est la Dépêche de Toulouse, qui est le journal justement d'Albert Sarraut et de son frère Maurice Sarraut, qui publie cet appel d'intellectuels.
Nous sommes à la fin du Front populaire, mais dans fin du Front populaire, il y a aussi Front populaire. Et que donc, il y a tout un mouvement qui est un mouvement de solidarité avec l'Espagne, qui s'est développé en particulier dans les mouvements de gauche, socialistes, communistes, mouvements syndicaux,
associations chrétiennes,
effectivement. Et puis, avec des relais, comme on le voit aujourd'hui, à la base, des gens qui vont aider, avec un courant humaniste qui dépasse même ces frontières-là. Et ça, c'est comme on le retrouve aujourd'hui avec ces mouvements d'aide aux réfugiés qui naissent dans toutes les villes, même si aujourd'hui, dans le contexte de ces attentats, je pense que ça va être plus compliqué. Mais cette mobilisation existait comme elle existe aujourd'hui. Et ça, ils l'ont senti, les Espagnols, sauf que la guerre vient. On est dans un autre contexte. Et dans la guerre qui arrive, qu'est-ce qu'on fait avec ces Espagnols ? Et finalement, il va être décidé par le pouvoir, on ne pouvait pas en faire des soldats au sens classique du terme, on va en faire des prestataires, on va les intégrer dans des compagnies de travailleurs étrangers.
Ne quittons pas la question du soutien ou de l'aide de beaucoup. On peut signaler d'ailleurs que Pablo Neruda, qui était à l'époque le grand poète, Pablo Neruda, chilien, qui était à l'époque consul général de son pays à Paris, a organisé le départ d'un certain nombre de républicains espagnols, des petites quantités, mais symboliquement c'est très important, vers Valparaiso.
Alors, c'est le problème de la rémigration et du rôle de l'Amérique latine. Ça, c'est tout un pan qui, maintenant, est bien connu, avec quelques pôles. Neruda, bien sûr, pour le Chili, Cárdenas pour le Mexique, et qui va d'ailleurs essayer de négocier, y compris avec Vichy, et qui va obtenir l'accord de Vichy pour un transfert massif.
Le président du Mexique, Cárdenas, est porté par une vague assez anticléricale, enfin de gauche, et très généreux. Aujourd'hui encore, on rencontre au Mexique des enfants d'Espagnols qui gardent beaucoup de gratitude à l'égard du gouvernement.
Et pour cause. Et on aura aussi quelques zones comme Saint-Domingue, Cuba et autres qui vont accueillir. Mais encore une fois, on est en ordre de grandeur autour de 10 000, 15 000. Mais symboliquement, c'était extrêmement fort. Et en plus, dans des pays qui sont, bien entendu, des pays de langue espagnole. Et donc, l'accueil était d'autant plus facile.
Il reste que la France demeure la première concernée pour des raisons simplement géographiques par cette arrivée des réfugiés et que, comme vous le dites, la question se pose aussi en termes économiques. Il y a toujours un volet économique dans ce genre d'événements, de la mise au travail éventuelle des réfugiés. On organise des groupes de travail dans des conditions qui méritent d'être éclairées.
On est confronté à une contradiction. C'est qu'on a une forme de concurrence pour la main-d'œuvre déjà existante. Et donc, ça crée évidemment des tensions à l'intérieur de la société française. Mais à côté, la guerre arrive, on a besoin de mobiliser les forces et on va créer des compagnies de travailleurs étrangers, des CTE, qui sont des compagnies de prestataires. Voilà, des prestataires de la défense nationale. C'est une façon de les intégrer à l'effort national pour la défense. Alors, un certain nombre vont même se retrouver sur le front. Sur le front vont être faits prisonniers de guerre. Et là, il y a un épisode qui est peu connu, qui est dramatique. Les Espagnols qui sont faits prisonniers de guerre au moment de l'effondrement français de mai-juin 1940, vont être sortis par les Allemands des camps de prisonniers de guerre, c'est la seule catégorie concernée par là, les rouges espagnols, comme disaient les Allemands, et vont être transférés à Mauthausen, à la fin 1940. Ils sont à peu près 7-8 000 dans ce cas-là, et il va y avoir un taux de mortalité de 65 à 66% parmi ces 7-8 000 Espagnols qui vont être transférés. Donc, c'est pour ça aussi que les Espagnols sont assez sensibles aux questions de terminologie. Par exemple, quand ils parlent des camps de concentration, ils parlent de camps d'extermination. Parce que pour eux, la référence est Mauthausen. C'est le cas de ces 7000 Espagnols. Donc, faut aussi penser, on parle mémoire, quand on discute avec des gens, c'est qu'ils ont ce vécu-là. Ils n'ont pas une histoire en tête globale de ce que le nazisme, de ce que est le système concentrationnaire. Ils portent, à travers leur identité, la mémoire de cette période-là. Et ce qu'ils ont en tête, c'est quoi? C'est Argelès, dans des conditions absolument dramatiques, et c'est Mauthausen, avec un massacre de masse à deux tiers des Espagnols pris dans les camps de prisonniers de guerre. Terrible, terrible.
D'autres, néanmoins, ont quitté assez vite ces camps et sont arrivés dans la société française et ont pu être accueillis ici ou là.
Bien sûr, ils sont intégrés. Cela étant dit, le premier transfert qui se fait vers les compagnies de travailleurs étrangers, après, arrive Vichy. Et l'instauration du régime de Vichy, État autoritaire. Or, pour le régime de Vichy, la guerre, c'est pas le résultat d'erreurs militaires. C'est le résultat d'un effondrement de l'intérieur, d'une crise qui était une sorte de délitement de la société, qui en fait datait de la Révolution française. On est dans la thématique très traditionnelle, non pas nazie, mais de l'extrême droite française. Et donc, pour sortir de cette crise, il fallait régénérer la société française de l'intérieur, et la régénérer, ça passait par le rassemblement des éléments dits purs autour des valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie, piété, ordre, la mise à l'écart, l'exclusion, on est dans une logique d'exclusion, l'exclusion de ceux qui sont considérés comme responsables de la défaite et qui ont pour nom le juif, le communiste, l'étranger et le franc-maçon. Et donc l'Espagnol va être à nouveau victime. On va le voir à la fois retourné dans les camps, alors même qu'il en était sorti massivement, et réintégré dans non plus, pour plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, non plus dans des compagnies de travailleurs étrangers, mais dans des groupements de travailleurs étrangers qui ont un statut non plus d'aide à la défense nationale, mais de neutralisation de populations qui peuvent être en concurrence avec les autres populations dans l'économie. C'est intéressant parce que cette logique d'exclusion, cette dénonciation de l'étranger comme étant responsable de la crise, on la retrouve évidemment aujourd'hui. C'est une des clés aujourd'hui pour comprendre les comportements d'une partie de notre corps politique et ensuite de la société française. On cherche les responsables et le responsable aujourd'hui, c'est l'étranger, c'est l'immigré. Ça fait depuis des années que ça dure.
Vous pensez aux immigrés économiques et comme aux immigrés caractère politique, aux réfugiés de la guerre de Syrie, puisque c'est de cela que nous parlons.
Regardez, on leur applique la même chose.
Des immigrés, même si, comme nous le rappelions tout à l'heure, les chiffres sont évidemment sans commune mesure, pour l'heure en tout cas, avec ceux qu'on a connus en 1939 avec les Espagnols, puisque ce sont des Espagnols que nous parlons ce matin.
Vous savez, ils sont sans commune mesure, mais j'ai une expérience là, on a inauguré le mémorial du camp de Rivesaltes.
Donc vous êtes beaucoup occupé de Nipeschansky.
Oui, je suis président du conseil scientifique et ça vient d'être inauguré par le Premier ministre à la mi-octobre. Et à la fin du parcours, comme c'est un camp qui a traversé tout le second XXe siècle, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Algérie, parce qu'il y a aussi les Harkis sont passés par ce camp-là, donc c'est le camp des déplacements forcés de population. On a fait une série de films, et le dernier film, c'est un dialogue que j'ai avec Philippe Leclerc, qui est le représentant du HCR en France. Bon. Et Philippe Leclerc dit, mais aujourd'hui, il y a 60 millions de personnes déplacées dans le monde. C'est un pic qui n'a jamais été atteint depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La fin de Deuxième Guerre mondiale, c'était 40 millions. Bon. Et là, l'Europe, 500 millions d'habitants, fait la fine bouche pour 100 000, 200 000 personnes qui risquent de rentrer. Alors, on sait maintenant que c'est beaucoup plus. Pourquoi on sait maintenant? C'est parce que ce film qu'on a tourné ensemble, on l'a tourné au tout début juillet. 2 mois avant l'explosion médiatique liée au drame du petit Elan. Et c'est là où on voit comment le présent s'inscrit dans une histoire longue.
Vous évoquez, Denis Péchanski, vous évoquez le malheur des Espagnols qu'on avait poussé à s'engager dans l'armée française, éventuellement dans la Légion étrangère, et qui ont été traités de la façon que vous avez dite, la façon sinistre que vous avez dite par les Allemands. Il y a aussi ceux qui se sont investis d'un côté dans la résistance intérieure et de l'autre dans la France libre.
Et ils vont jouer un rôle majeur, d'autant plus que la résistance a été le fait d'une minorité. À l'intérieur d'une minorité, bien préparée, si je puis dire, par l'expérience du combat en Espagne et puis par la motivation idéologique. Une minorité qui a compris que cette guerre était d'abord une guerre idéologique plutôt qu'une guerre contre de pays à pays.
Et qui a appris aussi dans la guerre d'Espagne que combien pouvaient être néfastes les querelles intestines dans le camp républicain, puisqu'il y a eu de dramatiques affrontements.
Oui, enfin, ça, j'aurais bien voulu qu'ils comprennent.
Les staliniens et les autres, oui.
Ouais, mais parce que quand vous voyez la façon dont on vivait dans les camps, dont les Espagnols réglaient leurs comptes à l'intérieur même des camps d'internement, comment ensuite, y compris dans la résistance, ça a été extrêmement problématique entre les communistes et les anarchistes en particulier, on peut se dire que les fractures de la guerre d'Espagne étaient encore présentes.
Le PCE et le PUM de l'autre côté.
Oui, le PUM, parce que et puis les anarchistes. C'était la faille. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est attention au mythe et en même temps attention à la réalité. Alors le mythe, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont passé la frontière sont des républicains. Non. Tous ceux qui sont internés vont devenir des résistants. Non, bien entendu. Mais en même temps, quand on regarde la résistance dans le sud-ouest, les Espagnols ont joué un rôle absolument fondamental. Parce que c'était une force de frappe, il y avait un effet de masse qui jouait, bien entendu, et qu'on a le témoignage de Vernant, grand intellectuel français, qui en même temps était un très grand résistant.
Jean-Pierre Vernant, qui est l'historien de l'Antiquité grecque.
Ouais, et qui était un des chefs de la résistance dans le sud-ouest, et qui va dire lui-même le poids des Espagnols, le rôle des Espagnols dans la libération et dans les combats du sud-ouest. Et puis bien sûr, leur rôle en Algérie, en Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord est libérée en novembre 1942 avec le débarquement et l'opération Torche. Et il y a des Espagnols là-bas. Puis il y a ceux qui se sont retrouvés, encore une fois, en Afrique du Nord et qui vont être derrière Leclerc, qui vont se retrouver dans la Nueve. C'est extraordinaire quand même. Les premiers chars qui rentrent dans Paris libéré ont des noms de villes espagnoles. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe des républicains espagnols qui sont engagés dans la compagnie de drones. C'est quand même incroyable, quoi. Et cette symbolique de républicains espagnols qui sont à l'avant-garde des troupes qui libèrent Paris, ça symbolise aussi le lien historique, d'abord entre les peuples, bien entendu, mais aussi le lien dans le temps. La guerre d'Espagne est bien le début de la Seconde Guerre mondiale.
On a mis d'ailleurs longtemps à rendre hommage à ces Espagnols arrivant les premiers par des plaques, par des souvenirs. Mais maintenant, c'est fait.
C'est fait, mais comment voulez-vous rendre hommage à des Espagnols alors même que à la libération, alors qu'on s'attendait au renversement de Franco, finalement, on le laisse sur place parce qu'il a assez bien joué sous le bon conseil de son voisin Salazar, et que après arrive la guerre froide et que les cibles de la guerre froide en France, c'est entre autres le Parti communiste espagnol avec une dissolution en 1950 et des expulsions massives en 1950, tout le temps de la guerre froide, les Espagnols, les républicains espagnols sont à la marge. Ils sont renvoyés. Ils ne font pas partie de la mémoire nationale. Ils sont exclus de la mémoire collective. Et tout le combat des Espagnols, il va être double. C'est à la fois de retrouver leur place dans la mémoire collective de la France et de retrouver une place dans la mémoire collective en Espagne.
C'est pour ça que les années 50 à 70, on peut poser les choses comme ça, je pense, sont les pires années du point de vue de la mémoire de cette grande question de l'immigration espagnole en France. Et c'est là que prospèrent d'ailleurs les lieux communs, les clichés. Je vais vous en donner un exemple que vous allez probablement trouver, comme moi, Denis Péchanski parlant. Il s'agit de libres propos d'un vieux monsieur qui s'appelle Georges Delamarre, qui était un des fondateurs de la radio en France, et qui s'exprime de la sorte, vous allez voir, dans les actualités de midi le 11 juillet 1960.
Nos départements voisins de l'Espagne, entre autres l'Hérault, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aude, tiennent à honneur d'avoir été terre d'asile pour les Espagnols contraints de quitter leur pays, notamment après la guerre civile de 1936-1939. Ces Espagnols réfugiés en France se sont refaits une vie normale et ont travaillé avec beaucoup de courage. Maintenant, ils sont associés à la collectivité française. Leurs enfants fréquentent nos écoles, où les filles remportent des succès marqués. Les garçons, eux, sont moins assidus. Mais chaque fois que se produit un mouvement de revendication, un désordre quelconque, par exemple une grève, ils sont au premier rang des agitateurs. Ces Espagnols ont gardé, garderont leur nationalité. Personne dans leur famille ne se soucie de solliciter la naturalisation française. Cela pour les garçons, fort peu désireux de faire leur service militaire. Quant aux filles, excellentes élèves, studieuses, intelligentes, elles distancent souvent leurs condisciples françaises. Plus tard, elles deviendront institutrices, après s'être fait naturaliser françaises, afin de pouvoir passer leurs examens. C'est très bien, c'est en somme un hommage rendu à notre enseignement. Nous y gagnons de bons professeurs. Pourtant, il est permis de se demander si cette situation est équitable. Prenons une famille espagnole, implantée dans notre Languedoc. Le père, la mère, trois garçons, trois filles. Ces dernières, naturalisées françaises de bonne heure, seront institutrices. Le père, la mère, les trois fils resteront espagnols. Tandis que les filles, dans les rangs de l'éducation nationale, serviront la cause commune, du moins nous l'espérons. Leurs frères continueront d'entretenir la discorde. Nous ne sommes pas assez simples pour penser que, s'ils étaient eux aussi nationalisés français, ils cesseraient d'être parmi les perturbateurs. Non. Mais enfin, nous ne voyons pas pourquoi la France, en échange de la protection qu'elle accorde aux uns, ne reçoit des autres que des menaces. Que les jeunes Espagnols mâles soient des révoltés, c'est leur droit. Mais à condition d'avoir sous le drapeau mérité la citoyenneté. Militant, fort bien, mais s'il vous plaît, d'abord militaire.
Eh bien voilà, Denis Pechanski, votre commentaire m'intéressera.
Mais écoutez, j'adore. J'adore parce que là, on a tous les stéréotypes. Alors évidemment, le stéréotype genré, les fils, les filles ont pas du tout le même comportement. Aussi, vous savez, l'allemand est obéissant, l'espagnol est ombrageux.
L'italien frivole.
Voilà, on aura... mais par ailleurs, la trace de l'histoire, c'est-à-dire que là, ce sont toujours des rouges. Malgré tout, alors que l'espagnol soit réfugié de 39 ou bien il fasse partie des 250 000 espagnols qui étaient déjà émigrés en France avant la guerre d'Espagne, donc c'était déjà la troisième émigration en France, on retrouve tous ces stéréotypes, mais aussi, malgré tout, indirectement, ça nous interroge sur la question des processus d'intégration. Pour les Espagnols, ça a été plus tardif. Et ça a été plus tardif, tout simplement, parce qu'ils pensaient que leur histoire allait pouvoir se reconstruire en Espagne même. Et ça, c'est tout le drame des suites de la Deuxième Guerre mondiale, l'illusion de la Reconquista, l'illusion du renversement de Franco, du retour à la situation intérieure pour ces gens qui avaient passé la frontière en février 39 et qui n'avaient aucune intention à l'origine de s'installer en France. Et c'est très intéressant parce que ça nous interroge sur les processus différenciés d'intégration dans la société française en fonction des situations d'origine. Très souvent, on dit, voilà, tel type de catégorie s'intègre mieux que tel autre, avec souvent derrière des stéréotypes fortement racistes. Ce qu'il y a derrière le plus souvent, c'est dans quelle situation ils se trouvent et ils s'imaginent dans la société d'accueil. Est-ce qu'ils se sentent de passage ou est-ce qu'ils se sentent en situation longue et donc dans un processus d'intégration? C'est ça qui est la clé. Voilà. S'ils considèrent qu'ils sont de passage, par définition, d'ailleurs ça peut très bien se passer, mais ils ne vont pas suivre les processus classiques de naturalisation. Mais en revanche, s'ils viennent en France, ils veulent s'installer, ils sont très souvent aussi attirés par le modèle français. Et le modèle français, c'est le modèle social, bien entendu. Mais c'est aussi le modèle idéologique.
Ce qu'on sait d'ailleurs des Syriens d'aujourd'hui, Denis Pechanski, donne l'impression que, pour la plupart d'entre eux, ils souhaitent revenir un jour dans leur pays. Alors le pourront-ils ou resteront-ils quand ils viendront 40 ou 50 ans, comme les Espagnols qui n'ont pas pu retourner sous Franco? C'est la suite qu'il dira.
Et puis on peut peut-être se poser la question sur la Syrie quand même. Qu'est-ce qui va se passer avec les 25 ou 30 000 Syriens qui viennent en France? Il faut peut-être se rappeler qu'actuellement, le quart de la population libanaise est formé de Syriens réfugiés. Le quart. Et on a 2 millions de Syriens qui sont à la frontière du côté turc. On a plus d'1 500 000, 1 800 000 du côté jordanien. Et ça bouge tout le temps. On a tout le temps ces accueils tout autour. Attention! Vous savez, j'ai écrit un... Début septembre, quand l'image est sortie de ce petit élan, j'ai écrit un article que j'ai appelé « Je m'en fous ». C'était un coup de gueule, quoi. Voilà. On me dit la situation, c'est pas possible, la situation en France, on va pas pouvoir accueillir. Je m'en fous, on doit sauver ces gens. Voilà, on doit les sauver, ils doivent vivre. La question, c'est pas de dire un Syrien d'aujourd'hui, c'est le juif d'hier. L'espagnol de 1939, en revanche, les processus sont les mêmes. Les processus, en particulier, d'accueil par les États démocratiques. Quand la France a accueilli dans les conditions qu'on connaît les Espagnols en 1939, eh ben ça nous interroge sur les conditions d'accueil aujourd'hui de ces réfugiés. Quand les Américains ont fermé la frontière aux Juifs qui étaient en danger de mort comme les Syriens le sont aujourd'hui, les processus là sont à analyser pour aussi juger du comportement des États démocratiques en situation d'urgence. Vous savez, on pose actuellement la question de remettre en place des camps d'internement. C'est une déclaration d'un homme politique français, Laurent Wauquiez, qui demande mise en place de camps d'internement pour les hommes qui sont fichés S. Bon.
Résurgence. Voilà. Finissons-en.
C'est quand l'internement, on doit se demander, par comparaison, parce que c'est là où l'histoire peut être utile, on peut très bien comprendre des mesures d'exception, c'est pas le problème. Mais il faut savoir aussi jusqu'où on va et si les mesures d'exception qui sont évoquées ont montré leur efficacité et si elles ne portent pas un risque, comme c'était le cas en 39-40, de laisser la place dans notre société à des réactions de rejet, s'il n'y a pas une dérive possible par l'emploi de certaines mesures. Et là-dessus, je n'ai pas de règle absolue. Je dis simplement qu'il faut adapter des mesures d'exception à une situation d'exception dans le respect simplement des valeurs que nous portons qui ne sont pas des valeurs d'exclusion.
C'est déjà la question que s'est posée la France au moment où elle est entrée en guerre, après septembre 1939. C'est une très délicate balance, mais il faudra assurer cet équilibre à tous les moments, et en particulier aujourd'hui. Vous vous étonneriez peut-être, Denis Péchanski, si je ne vous donnais pas entendre un morceau du film très, très fameux d'Alain Resnais, rédigé, écrit par Semprún, qui doit être cité dans une émission telle que celle-ci, puisqu'il est à la fois espagnol, il était ministre de la Culture de l'Espagne libérée, et d'autre part un écrivain français de haute facture. L'extrait que je vais vous faire entendre donne la parole à Yves Montand, qui joue, vous savez, le personnage de Diego, qui continue avec un mélange de fidélité et de lassitude à s'efforcer d'agir politiquement contre la dictature de Franco. Le film est de 1966, La guerre est finie, Alain Resnais.
On dirait que ça bouge en Espagne.
Ah oui, comme dit Marianne, ça bouge, mais ça ne change pas.
Et toi, qu'est-ce que tu dis ?
Rien.
Je suis ton ami, Diego.
Oh, les choses que j'ai à dire sur l'Espagne ne plairaient à personne. Moi-même, je suis pas sûr qu'elles me plaisent. La malheureuse Espagne, l'Espagne héroïque, l'Espagne au cœur, je n'ai par-dessus la tête. L'Espagne est devenue la bonne conscience lyrique de toute la gauche. Un mythe pour anciens combattants. En attendant, 14 millions de touristes vont passer leurs vacances en Espagne. L'Espagne n'est plus qu'un rêve de touristes ou la légende de la guerre civile. Tout ça mélangé au théâtre de Lorca. Et j'en ai assez du théâtre de Lorca. Les femmes stériles et les drames ruraux, ça suffit comme ça. Et la légende aussi, ça suffit comme ça. Je n'ai pas été à Verdun, moi. Je n'ai pas été non plus à Teruel, ni sur le pont de l'Ebre. Et ceux qui font des choses en Espagne aujourd'hui, des choses vraiment importantes, n'y ont pas été non plus. Ils ont 20 ans et ce n'est pas notre passé qui les fait bouger, mais leur avenir. L'Espagne n'est plus le rêve de 36, mais la réalité de 65, même si ça semble déconcertante. 30 ans se sont passés, les anciens combattants m'emmerdent.
À partir de quel moment les combattants contre Franco, qui finalement ont gagné la partie, ont-ils éprouvé cela ? Ce sont les rythmes étranges de la mémoire.
Est-ce que c'est les anciens combattants qui ont remporté la partie ou est-ce que c'est cette jeunesse dont parle Diego, dont parle Semprún, dont parle René ? Film extraordinaire, hein ? Mais parce qu'il montre le basculement. C'est pas le passé qui va faire basculer l'Espagne, c'est l'avenir en quelque sorte. Ce mouvement de l'intérieur, cette jeunesse qui a soif d'autre chose, qu'on puisse reconstruire le pays, et c'est là où ça va être problématique, non pas sur la référence constante, obsessionnelle à la guerre d'Espagne, que critique Semprún, que critique Diego ici, mais qu'on puisse construire la Nouvelle-Espagne sur l'oubli de la fracture, parce que c'était une guerre civile, on voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et pas simplement dans l'impossibilité pour les Espagnols de se réapproprier cette histoire républicaine massivement, mais aussi dans cette explosion, cette implosion de l'Espagne, parce que on ne comprendra rien à ce qui se passe en Catalogne si on n'a pas en tête non pas la guerre d'Espagne, mais l'oubli de la fracture au moment du changement et du basculement vers la démocratie.
C'est un oubli délibéré, c'est un oubli politique, c'est l'amnistie du retour progressif de la démocratie. Et effectivement, on a vu dans les années 2000, notamment avec l'arrivée du gouvernement de gauche au pouvoir, on a vu la résurgence à hauteur plutôt des petits-fils des combattants que leurs fils, la résurgence d'un appétit de mémoire.
Ah oui, il y a une demande. Une forte demande. Et il y a une demande en France, hein, de la part des enfants, des petits-enfants, d'anciens républicains espagnols, d'anciens internés. C'est actuellement au mémorial du camp de Rivesaltes, les plus nombreux à venir, alors que c'était un camp pour juifs, pour espagnols, pour tziganes, et ensuite pour les harkis, après la guerre d'Algérie. Ceux qui sont les plus nombreux sont soit ceux qui viennent d'Espagne, soit ceux qui viennent de France, mais qui sont d'origine espagnole. Voilà. C'est vraiment leur histoire. Ils se sont réappropriés cette histoire. Donc on sent bien que là se joue quelque chose de décisif pour l'avenir de l'Espagne et pour l'avenir de la Catalogne toute proche.
Peut-être faut-il rappeler pour finir, certains n'ont pas noté que notre premier ministre actuel est d'origine catalane, d'origine espagnole, et que la maire de Paris aussi, Anne Hidalgo, descend d'immigrés espagnols. Et d'ailleurs, il est notable que à l'occasion des débats sur l'arrivée des Syriens, elle ait proposé un plan en 18 points pour organiser cet accueil. Le dernier étant l'affirmation, un peu abstraite, mais en réalité forte, de la nécessité de promouvoir la liberté mondiale de la circulation. Denis Péchanski, merci. Le livre majeur où vous traitez de ces questions s'appelle « La France des camps, l'internement, 1938-1946 », paru chez Gallimard en 2002. Et puis, hommage doit être rendu, un hommage chaleureux à un auteur que j'ai déjà cité, l'ancienne directrice de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, la BDIC, qui est Geneviève Dreyfus-Armand, qui a publié un livre important qui s'appelle « L'exil des républicains espagnols en France, de la guerre civile à la mort de Franco ». C'est un livre qui remonte à 1999. Et puis, chemin faisant, j'ai rendu hommage également à très bel album que les éditions des Arènes viennent de nous proposer, qu'elle a organisé avec Odette Martinez-Mallaire, qui est une sorte d'anthologie de très beaux textes, certains tout à fait méconnus, avec une très très belle illustration iconographique également. L'Espagne, passion française, 1936-1975, avec le sous-titre « Guerre, exil, solidarité ». Les trois termes qui ont gouverné notre conversation, n'est-ce pas, ce matin, Denis Péchanski. Et enfin, naturellement, je dois, puisque nous sommes sur France Culture, et pas seulement pour cette raison, rendre hommage au dernier numéro de notre chère revue France Culture Papier. Le numéro 16, qui est en kiosque depuis quelques jours, s'appelle « Migrants, fraternité ou barbarie ?» Point d'interrogation. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, retrouver une bibliographie plus complète encore sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, des documents sonores, et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, changement de décor, changement de tonalité aussi. Nous parlerons de l'actualité de Christophe. Vous savez, l'auteur immortel de Piquet Plog, La famille Fenouillard, le savant Cosinus, et, j'allais dire surtout, le sapeur Camembert. Et pour cela, je recevrai l'excellent connaisseur, cet excellent auteur, qui est Pascal Horry. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux soutien de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée comme chaque semaine par Patrick Molinier, avec à la prise de son Ariane Herbet, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Arnaud Plançon. Et dans quelques instants, je passe le témoin à Christine Ockrent pour son émission « Affaires étrangères ».